toutes et à tous et bienvenue dans Comics Peak, l'émission qui vous sélectionne un comics de choix par semaine, en théorie, puisqu'on a un petit peu de retard là sur les dernières émissions. Mais on se retrouve encore aujourd'hui avec Balmung. Salut Balmung.
Salut Baptiste, salut Nightwing et salut les auditeurs.
Et salut Nightwing.
Salut Baptiste, salut Balmung et re-salut à tous. Content de vous retrouver aujourd'hui.
Ouais. Alors la joie et la voix qui commence à être cassée, du coup je suis désolé pour ce que vous allez entendre en partie. Donc non pas que je vais préserver ma voix.
C'est-à-dire pas grand-chose.
Voilà, de toute façon aujourd'hui je pense que ça va aller assez rapide, mais en même temps, on risque de confronter un peu certains avis, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une nouvelle publication de 404 Comics. 404 Comics, on vous a partager pas mal de coups de cœur qu'on avait et de grosses attentes qu'on avait. De mon côté, je continue de lorgner sur une future relecture de Âme Augmentée qui sortira chez 404 et qui s'appelle en VO Upgrade Soul et qui est incroyable. On vous renvoie également sur nos précédents podcasts où on avait également parlé d'autres titres de chez 404. Je me rappelle de Apparition
dans le ciel de Berlin-Est.
De Berlin-Est, exact, merci, qui était une très bonne expérience, très rapide, mais très efficace, et 404 qui fait toujours de belles éditions, et donc aujourd'hui on va parler d'un titre qui profite d'une petite popularité, j'ai l'impression, dans le petit cercle des lecteurs de comics, parce que je vois pas mal de personnes en parler, même des personnes qui ne sont pas forcément spécialement attirées par l'indé. Donc on va parler aujourd'hui de Arca, de Van Jensen et Jesse Lonergan, un album, on va dire, un one shot, je sais pas si c'était sorti en one shot en VO, mais je crois que voilà.
Oui. Ah attends. Alors attends. De toute façon, ça doit être marqué dans les crédits, mais il me semble pas que ce soit en.
Ouais, one shot ou mini série. De toute façon, c'est un album complet, comme la plupart. Enfin, toutes les publications 404 jusque là. Donc, on ne dérogue pas à la règle avec cet album là. Et concrètement là, c'est une équipe créative dont je ne connais pas grand chose, voire quasiment pas, enfin rien du tout sur le ou la dessinatrice. Et donc c'est Balmung qui va nous présenter cette équipe de nouveaux artistes, on pourrait dire.
Alors c'est faux en fait, c'est pas des nouveaux artistes, mais c'est juste qu'en fait ils ont pas eu une carrière, on va dire, très médiatisée. C'est un peu particulier, j'ai vraiment moi galéré. De quoi?
Mais le pire, non, mais c'est qu'en fait, je rigole parce que je viens de me rappeler ce que tu m'avais dit quand tu m'avais dit, il y a Arca qui sort, ce serait cool d'en parler. Et là, en fait, en revoyant le nom du ou de la dessinatrice, rappelé, Edra, tu vois, j'ai Edra qui a repopé, je me suis dit, oh punaise. Et le pire, c'est que c'est un comics que j'avais adoré, quoi.
Oui, de toute façon, je vais en parler. Jess Lonergan, qui est né en Californie et qui a vécu, on va dire, entre, à ce que j'ai compris, l'Arabie Saoudite et le Vermont, donc Vermont aux États-Unis, hein. Donc drôle de début, mais bon bref, qui a très peu de choses à savoir sur sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pratiquement rien, c'est-à-dire que c'est, alors de toute façon, ça va être la même chose avec Van Jensen, comme j'ai dit, Van Jensen, c'est des auteurs qui ont peu de choses à trouver sur Internet. J'ai dû vraiment chercher sur les sites anglais, mais grosso modo, c'est un dessinateur qui a commencé sa carrière en 2007, à ce que j'ai compris, et qui a commencé, alors pour un éditeur qui s'appelle NBM Publishing, dont j'ai jamais entendu le nom avant aujourd'hui, bonjour, il a travaillé sur 3 titres là-bas, il a travaillé sur Flower and Fade, qui est un titre où je ne peux trouver aucune information, c'est-à-dire que même la page de l'éditeur n'a plus rien en rapport avec ce titre, donc c'est vraiment la tristesse. Joe et Azat aussi que j'ai trouvé, et un dernier où là on a un petit peu d'infos, c'est All Star, qui est un titre qui lui est sorti en 2014, donc 7 ans plus tard, c'est-à-dire que bon voilà, il a travaillé pendant 7 ans chez cet éditeur-là, et c'est un titre qui là va parler de baseball. Bon, autant vous dire que baseball, bon, ça m'intéresse peu, mais bon, voilà, c'était juste pour dire que, voilà, il a quand même pas mal d'années, il a 17 ans de carrière, si je sais bien compter, ouais, voilà. Et on n'a jamais entendu trop parler de lui. On va entendre surtout parler de lui, très vite avec, en 2020. Alors, je sais pas c'est lequel des deux qui est sorti en premier, parce que les deux sont sortis dans la même année, mais il y a Edra. Edra, qui est un one-shot, donc que Baptiste parlait juste avant, qui est un one-shot qui a pour particularité d'être entièrement muet et avoir un découpage extrêmement bizarre, c'est-à-dire que c'est tout dans des petites cases. C'est où on va suivre une espèce de cosmonaute qui va se balader à travers plusieurs planètes qui sont toutes très comment dire ça très symétriques. Il y a tout un travail sur de la symétrie, sur des formes géométriques, et ça va être très spécial à lire. Et c'est un titre qui, j'en parle parce que c'est avec ça qu'il s'est fait surtout connaître, vu qu'il a gagné un Eisner la même année pour ce one-shot. C'est pas un Eisner pour le meilleur titre, mais c'est un Eisner pour le meilleur one-shot. Il faut savoir que si on vous recommande chaudement de le lire, sachant qu'il y a peu de chances que ce soit édité en France, notamment parce que c'est un titre avec une pagination très faible. On est dans l'ordre de moins de 40 pages. Et je crois que même dans une discussion, justement, celui qui... Le gérant de 404 avait bien dit que ça allait être compliqué, lui, de l'éditer, notamment pour la pagination, et de savoir comment le faire, etc. Donc, ne croisez pas trop les doigts, essayez d'aller le récupérer. En plus, c'est entièrement muet, donc pour le coup, c'est un titre en anglais, où vous n'allez pas avoir le problème de la barrière de la langue. Juste essayer de le récupérer, sachant que ce que je voyais assez souvent sur le preview, c'est que Image le réédite assez souvent quand même. Enfin, de temps à autre, pas assez souvent, mais au moins de temps à autre. Donc, si vous avez moyen de mettre la main dessus, ça vaut le coup.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, Edra, pour vous comprendre un petit peu, c'est que ça one-shot, et les one-shot, généralement, ça vend pas énormément. Et ce truc, au départ, je l'avais vraiment préco en me disant, allez, je pourrais le choper. Et ben en fait, j'ai jamais pu mettre la main dessus, malgré les différents reprints de Image, parce que c'est un one-shot, qui a été en rupture, et ensuite qui a été réimprimé. Et de mon côté, j'ai pas réussi du tout à mettre la main dessus, et c'est un vrai regret, parce que c'est incroyable.
Moi, en fait, les one-shots, j'aime bien des fois me les tester, donc c'était pour ça que je l'avais pris, je connaissais même pas l'auteur, c'est juste, il y avait quelques planches sur le preview, sur à quoi ça y ressemblait, j'étais très curieux, parce que c'était vraiment... Faut voir les planches, on va dire, c'est très spécial. Le titre qu'on va parler, Arca, va reprendre une certaine mesure cette espèce de découpage là, mais on aura le temps d'y revenir. Mais c'est surtout avec ça, voilà, que moi je vais pouvoir faire mon point sur cet auteur. Parce qu'après aussi en 2020, il y a un autre titre qui est sorti, c'est Planet Paradise. Planet Paradise que je n'ai pas lu, que je dois lire, et grosso modo c'est le deuxième plus gros titre de l'auteur avant d'arriver à Arca, bien évidemment. Et Arca, pardon, qui est sorti lui en 2023. Bon, je vais vous présenter juste après, qui nous arrive juste l'année suivante. Et enfin, pour tirer un peu plus loin sur l'après Arca, il va travailler aussi. Enfin, il travaille actuellement sur Miss Trusdal, qui est un titre qui est tiré de l'univers hyperboréen de Mike Mignola, c'est-à-dire que Mike Mignola sera au scénar. Jess Lonergan sera au dessin, et l'univers hyperboréen, si vous suivez plus Hellboy depuis longtemps, comme beaucoup de gens, même moi, je pense que j'ai pratiquement raté, grosso modo, c'est un sous-univers de l'univers de Hellboy, c'est-à-dire que c'est un univers, si je dis pas de bêtises, qui se passe vraiment loin dans le passé. Grosso modo, presque, limite, c'est pas les hommes des cavernes, quoi. Y a aussi un autre titre que je mettrai en avant, c'est parce que du coup, en fait, on va retrouver nos deux noms, notamment, parce que du coup, ça va me faire le bond, notamment avec Van Jensen, c'est que Van Jensen a fait un espèce de Kickstarter, ce que j'ai vu en passant, qui s'appelle Stardust, qui est une reprise d'un personnage qui date du Golden Age. Alors, je ne sais pas chez qui, mais grosso modo, voilà, ils reprennent un personnage. Ça a été financé en 2023 pour sortir je ne sais quand. Et sur ce titre-là, il y aura de nouveau Jess Lonergan, et notamment aussi d'autres auteurs connus. Alors j'avais vu du genre Frank Avila, Michael Red, Xander Cannon, Jeff Parker, Tom Follower, etc., etc. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça n'est pas encore sorti, donc voilà, c'est juste pour dire que ça va arriver.
Ouais, mais c'est quel personnage du Golden Age?
Stardust, The Super Wizard, j'ai lu.
Ok. Je l'ai vu passer comme annonce, mais non, c'est pas un personnage.
Moi non plus, ça ne me dit rien, mais après, on est un peu dans la mouvance. Hein. On avait eu avec Miracleman. Bon, Miracleman, ça daté, hein, on était fin 80, mais on l'a re-eu aussi avec. Comment ça s'appelle avec par la suite avec Starman, on l'a revu aussi avec comment s'appelle le pilote là qui a été repris. Ah, j'ai oublié son nom. Enfin bon, bref, c'est reprendre des personnages du Golden Age. Maintenant, c'est devenu une habitude, donc ça m'étonne pas que voilà un super-héros qui date d'il y a longtemps, dont on même à l'époque ne marchait pas très bien, on le reprenne, on essaie de le remettre au goût du jour. À voir, mais pour l'instant voilà, c'est un Kickstarter, donc on n'est même pas sûr si ça va arriver, etc. Enfin, je dis Kickstarter, pardon, je veux dire crowdfunding, parce que c'est pas forcément, c'était pas de Kickstarter, je sais plus, j'ai pas regardé, en fait, là, j'ai juste tombé sur un site qui permettait de venir après la fin de la campagne, quoi. Donc, voilà. Voilà pour Jess Lonergan. Alors, j'aurais bien voulu parler de son dessin, mais je le ferai juste après la présentation du titre. Là, je vais passer sur Van Jensen, que je dois très bien le dire, qui lui aussi était un véritable bordel à trouver quelque chose sur lui. J'ai galéré. Grosso modo, la seule chose que je sais, c'est qu'il est né au Nebraska, qu'il a commencé à faire ses armes dans un journal, où apparemment il était reporter de crime. Alors, je ne sais pas, je connais pas cet intitulé. Ouais, c'est pour ça, je comprends pas. Crime reporter, j'ai vu, donc je sais pas. Bref, je ne sais pas. Peut-être que je raconte. Enfin, peut-être que c'était de la merde. J'ai vu ça sur Goodreads. Et je sais aussi qu'il a été éditeur de magazine. Et c'est là pour le coup, c'est plus compliqué de savoir à quelle date il a commencé à travailler dans du comics. Je crois qu'il a commencé. Le truc que j'ai trouvé, ça devait être environ vers 2014, avec un peu avant, pardon, 2010. Non, rien à voir. 2010. Où il a travaillé sur un titre de c'est la première fois que j'en entends parler, mais visiblement c'est un titre qui est connu, c'est Pinocchio, chasseur de vampires. J'ai jamais entendu parler de ce titre, avec en plus au dessin Dustin Higgins, ça m'étonne, je ne savais pas.
Non mais dans la bizarrerie, ces deux-là, ils étaient faits pour
ce. Non mais c'est ça, ils ont
la carrière ultra chelou.
Mais après, ce que je comprends, c'est que Van Jensen, en fait, il n'a pas fait que scénariste. En fait, c'est pour ça aussi. Je pense qu'à mon avis, il doit garder son travail à côté, en plus de celui-ci, c'est pour ça qu'on ne le voit pas autant que ça. Mais pour le moment, moi, ce que j'ai surtout retenu de sa carrière en tant que scénariste, c'est qu'il a souvent été un second couteau, c'est-à-dire qu'il a travaillé notamment sur Green Lantern Corps pendant le New 52, mais que sur quelques numéros, avec Vendetti en guest, plutôt. Il a travaillé aussi sur du Flash, sur la fin du New 52, donc vraiment la partie la plus inintéressante de Flash, je vous le garantis. Croyez-moi sur parole, ne tentez pas ça chez vous, ne lisez pas la fin de Flash New 52. le titre, par contre, où là, il est beaucoup plus reconnaissable, et là où je dis que ça vaut plus le coup de lire, c'est le James Bond Casino Royale qu'on a eu, qui a été édité chez Delcourt. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui vaut bien plus le coup que tout ce que je vous ai cité avant. Donc voilà. Et du coup, ben voilà. Voilà notre Arca qui arrive juste après tout ça. Et bien sûr, le dont je vous ai parlé avant, le Stardust. Mais bon, ça, je ne sais pas ce que ça vaut vu que ça n'est pas encore sorti. Donc, on commence déjà avec cette belle équipe. Et du coup, on va parler d'Arca. Alors, Arca, c'est un titre qui se passe dans le futur où on va suivre, grosso modo, alors j'ai déjà oublié son nom, ouais, pardon, oui, c'est bon, c'est juste, ouais. Un vaisseau qui va à travers la galaxie, et on comprend qu'en fait, ce vaisseau-là est un vaisseau de survivance, c'est-à-dire que la Terre n'est plus vivable, ou a été détruite, on ne sait pas trop, mais ce qu'on comprend juste, c'est que des grands penseurs terriens ont créé cette espèce de vaisseau-là, pour espérer s'échapper de la Terre qui n'était plus vivable et aller trouver un nouveau paradis ailleurs. Et pour ce faire, on va voir que tous ces grands penseurs sont globalement quand même aussi des très gros riches. On va avoir un grand généticien, mais qui était aussi l'un des hommes les plus riches du monde. On va avoir, je sais pas, un musicien extrêmement célèbre, un héritier de des robots, enfin des un fondateur de MMA, etc. Mais que de grosses compagnies qui vont être à la tête de ce vaisseau-là. Et derrière, nous, ce qui va nous intéresser plus dans notre histoire, c'est plus ce qu'ils appellent les pionniers, qui sont en fait, grosso modo, toutes les petites mains qui vont permettre au vaisseau de marcher, c'est-à-dire autant les simples serviteurs de ces riches, mais aussi les mécaniciens, les gens qui vont gérer pour les cultures dans le vaisseau pour fournir à manger à tout le monde. Et on va comprendre en fait que ce sont Bon, là où les riches sont grosso modo des vieux, je vais être méchant, mais si c'est ça, les serviteurs, eux, vont être surtout des jeunes qui vont avoir moins de 18 ans. Et grosso modo, ça va être des gens qui vont travailler pour le vaisseau, et lors de leurs 18 ans, on leur dit qu'ils vont devenir un citoyen comme un autre, c'est-à-dire qu'ils vont rejoindre justement cette élite de riches dans d'autres secteurs que eux n'acceptent pas. On va suivre l'histoire à travers les yeux surtout d'une femme qui s'appelle Effie, qui elle a pour rôle de faire nourrice pour les enfants d'un certain Nayan Al-Said, qui est quelqu'un qui a pour but de conserver des œuvres littéraires et en fait elle va apprendre la lecture avec lui et par cette lecture là développer son intellect. Parce que notamment les serviteurs n'apprennent pas à lire, on l'apprend assez vite. Et avec cette pensée-là, ces pensées, on va dire, philosophiques, pensées aussi politiques, elle va essayer de réfléchir à ce qui se passe un peu sur le vaisseau-là et essayer de partager, on va dire, cette connaissance avec ses autres, les autres serviteurs, et essayer d'une certaine manière de comprendre s'il ne se passe pas quelque chose de bizarre dans le vaisseau. Et je vais m'arrêter là au niveau du scénario, parce que aller plus loin, ce serait un peu du spoil, mais j'ai envie de dire d'un côté, parce que je sais que Baptiste va y arriver, c'est quelque chose qui est assez évident. On comprend très vite qu'il se passe quelque chose de mauvais sur le vaisseau. Le titre est quand même assez court, donc c'est normal. Ce que je veux dire, c'est qu'on le voit quand même assez vite. C'est, pour moi, je vais partir directement sur un point faible et je vais y revenir pour essayer de remettre un peu plus en avant ce titre. Mais grosso modo, c'est un titre qui est simplé. C'est un titre de science-fiction, donc comme un autre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des thématiques qu'on aura déjà vues. Là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est que déjà, ça va citer un peu des auteurs, ça va essayer de faire de la critique un peu politique, parce que là où, quand vous lisez des bouquins de science-fiction, vous avez l'habitude, mais pour des lecteurs de comics, je vais être méchant, il n'y a pas tant de choses que ça, en fait. Des trucs qui sont vraiment... qui rentrent vraiment dans le lard, dans le sujet. Mais on n'en a pas autant. Mmh.
C'est vrai qu'on a beaucoup de soap dans les comics grand public. C'est beaucoup du soap opéra, du planète opéra, etc. Donc on va avoir beaucoup de représentations du bien et du mal. Ici, là, on est beaucoup plus dans la science-fiction telle qu'on l'entend dans la littérature. C'est pas de la hard SF non plus. Voilà. Mais c'est une bonne histoire science-fiction, c'est clair.
Et c'est, on va dire, c'est plus une bonne introduction à de la science-fiction que vous pourriez lire, qu'on va plus lire dans du bouquin que dans du comics, malheureusement. Malgré que, voilà, moi, si je devais critiquer un autre truc, c'est la symbolique. La symbolique, parce que, alors, moi, je le vois très vite, les images. Je suis pas aveugle, et quand on me balance des petites images, genre... t'as vu, je suis trop intelligent, regarde ce que j'ai mis. Bon, déjà, tu l'as avec les citations qu'elle fait, parce que du coup, elle a cité les auteurs qu'elle a lus, vu qu'elle n'a que ça dans la vie, en dehors de son travail. Mais aussi, des trucs qui sont vraiment trop évidents, du genre, sur une seule page. Alors, ça va rejoindre, en fait, le style de l'auteur, c'est qu'il a l'habitude de faire plein de petites cases. Je vais y revenir. Mais du coup, dans toutes ces petites cases, sur une seule page, on va avoir une faucille et un marteau qui vont se balader dans les pages. Et tu dis, ouais, bon, je suis pas non plus... C'est pas très masqué, ça. J'ai déjà connu plus subtil. Donc bon. Mais voilà. Ça, c'était vraiment la critique. Mais après, il faut savoir que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, l'histoire suit le dessinateur. C'est-à-dire que c'est épuré et c'est efficace. Et je m'explique, parce qu'en fait, le dessin de Jess Lundgren a pour une certaine particularité, c'est que c'est pas un dessin qui va être extrêmement détaillé. Ou plus exactement, qui va omettre certains détails, mais qui va jouer surtout sur la composition de ses pages, et plus exactement sur la composition aussi de son découpage. Il a, en fait, ce que j'adore avec cet auteur, c'est qu'il a des idées de découpage qui sont vraiment très intéressantes. Il va jouer surtout sur les petites cases. Alors, quand il veut raconter quelque chose, quand de l'action commence à arriver, il va commencer d'un coup à faire des... Alors, pas que des gaufriers, parce que... Alors, les gaufriers, si vous connaissez pas, je vous laisse regarder Watchmen, vous y reviendrez après pour en parler, mais vraiment du découpage action par action, c'est-à-dire le but de faire des petites cases, c'est justement de pouvoir décomposer un geste, par exemple, là où il va donner un coup de poing, le coup de poing va prendre du temps à arriver au visage du mec en face. Ben là, on va avoir un peu ça. Et par la même occasion, en fait, en installant ce découpage-là, il va commencer aussi à y jouer avec. On l'avait déjà, moi je l'ai déjà vu ça avec Edra, mais il va reprendre cet exemple-là justement pour jouer avec son découpage, notamment. Je peux présenter par exemple certains jeux, c'est par exemple c'est le fait que d'un coup il y a quelqu'un qui va prendre une arme et qui va tirer, et en fait la balle elle va traverser 4 cases pour atteindre le mec en face. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit ah ça c'est pas mal. Et il y en a un autre, c'est aussi de refaire le découpage, et en fait va y avoir là une espèce d'action qui se passe dans les petites cases, sauf qu'en fait au premier plan devant toutes les cases tu vas avoir deux personnes qui sont en train de se foutre des pains dans la gueule par-dessus toutes les autres cases. Et ça aussi, ça voilà, ça c'est des petits trucs. Il essaie de trouver justement quelque chose pour sortir un peu de ce découpage que lui-même instille et met en place tout le long du récit. Donc à ce niveau-là, pour moi, le gros point fort de ce titre-là, c'est véritablement le dessinateur et sa manière de narrer, qui est vraiment le point central. Et puis voilà, après voilà, comme je disais, c'est que c'est pas révolutionnaire, ça c'est même un peu trop naïf, mais ça a quand même un bon fond et une bonne pensée derrière. Mais voilà, bon voilà, ça mériterait de à rigueur d'avoir plus de pages pour mieux présenter soit le vaisseau et justement pouvoir entrer encore plus dans le détail, parce que on voit qu'il veut dire des choses, par exemple de mettre par exemple un mec qui travaille dans la MMA qui est violent, mettre un mec qui est limite un présentateur d'Apple, etc. Et ça, t'as moyen de, si t'avais plus de pages, je suis sûr qu'il aurait plus à critiquer et faire peut-être un rapport avec la réelle. Mais bon, ça, je vais laisser les autres en parler, mais voilà. Peut-être Nightwing, je sais pas.
Bah, t'as vraiment tout dit, en fait. C'est là où j'allais rebondir, c'est quand t'as dit peut-être plus de pages, et ouais, en vrai. Parce que c'est comme tu l'as dit, c'est assez... Enfin, naïf, c'est comment dire, c'est très ouais naïf, c'est peut-être le terme le moins agressif, sinon ça allait vraiment trop non.
Crétin.
Non, péjoratif, mais c'est non, j'ai pas envie de tomber dans le péjoratif, parce que c'est pas du tout le cas, parce que c'est un titre qui mériterait vraiment un développement plus long sur ses personnages et sur son monde, en fait. Qui prennent le temps de d'entrer dans les détails, parce que du coup le fait que le titre soit aussi court fait que bah on prend des raccourcis, on va utiliser des idées qui peut-être en prenant plus de temps auraient été plus subtilement amenées ou auraient permis de d'étoffer un peu plus ce qu'on essayait d'en dire au fond. Et on peut avoir cette impression d'avoir ce sentiment de déjà vu, ce sentiment de on sait ce qui va arriver, parce que dans l'histoire en elle-même, j'ai pas vraiment été surpris jusqu'à peut-être les 20-30 dernières pages, où là même ça tu t'attends à certaines choses. Je pense que vous voyez un petit peu à quoi je peux faire référence. Mais tu t'y attends un peu, mais malgré ça, je trouve que l'histoire est tellement prenante que, allez, vas-y, on s'y attendait, mais ça marche. Et peut-être même qu'on aurait voulu voir une suite, finalement, à ça. Une suite à ces choses qu'on apprend, qu'on découvre vis-à-vis de tout ça, pourrait amener dans l'esprit de l'équipage, en fait, et de comment ça pourrait influencer leur fonctionnement. Et c'est d'ailleurs un truc que je trouve assez fataliste par rapport à l'auteur, c'est de voir que dans un monde où la Terre est partie en vrille, qu'il faut sauver l'humanité, la façon dont on s'organise pour sauver l'humanité est tel que c'est le même fonctionnement en pire, qui ne peut amener qu'à voir la même chose ou à un fonctionnement de type dictatorial. Donc c'est assez triste de voir que bah pour sauver l'humanité il faut la rendre docile et en faire des machines, voilà. Et je vous laisse je pense que ça peut parler à certains après la lecture, mais du coup c'était à ce niveau-là pas du tout innovant, mais enfin c'est une façon d'aborder le sujet, une façon de voir les choses qui me parle beaucoup et qui actuellement au vu de l'état du monde et de la société ne peut que parler à tout le monde. Donc moi j'ai trouvé que c'était un titre vraiment très intéressant qui manque peut-être de place en fait pour étoffer un petit peu le monde qu'il développe. Mais c'est assez fort de voir qu'on s'attache vite au personnage de Effie.
Tu veux dire que plutôt que de penser à faire des fusées qui vont dans l'espace et qui vont toujours encore plus loin, il faudrait peut-être commencer à penser à éviter de faire crever l'endroit où on vit.
Ouais, voilà. Voilà, un peu aussi. C'est un petit peu le premier réflexe qu'ont toutes les œuvres de SF maintenant. C'est, et si on... Ouais, c'est on se tourne vers les étoiles, en gros, laissons tomber, on a merdé ici, bah c'est pas grave, venez, on va merder ailleurs. Voilà, ça peut brièvement, l'idée de l'équipage, ça se résume à ça, quoi. C'est allons merder autre part.
C'est une pensée qui s'est intégrée dans l'histoire de la science-fiction à partir de la fin des années 60. Donc en fait, on a tendance à se dire que les années 50-60, c'est cette idée de conquête spatiale, mais une fois que l'espace a été conquis et que on a commencé à avoir une pensée, le mot écologie qui est apparu dans la littérature, c'est à travers la science-fiction, fin des années 60 et surtout dans les années 70. Donc en fait, là, Arca, c'est pas un comics qui va révolutionner quoi que ce soit, qui va vraiment emprunter le grand boulevard des histoires déjà vues de la science-fiction, mais qui le fait correctement, et qui a quand même l'intelligence de ne pas nous prendre pour des cons, parce que le récit nous montre qu'il sait très bien qu'il va suivre ce grand boulevard qui est déjà présent depuis très longtemps, mais il va nous servir une histoire qui est quand même plaisante, et qui trouve une forme d'innovation dans sa narration visuelle. Et comme l'a dit Balmung, je suis totalement d'accord avec ça. Mais de mon côté, mon appréciation, elle est un peu moins bonne. Ça n'empêche que ça reste un album, je le dis tout de suite, que je peux recommander à des fans de science-fiction, des amateurs de science-fiction, parce que c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire avec un dessin qui est très intéressant. Je le trouve moins impactant que Hydra, même si j'aime pas la critique comparative. Je trouve le récit beaucoup moins bouleversant que ne peut l'être Âme Augmentée, dont je parlais au début du podcast. Mais c'est une histoire...
Non mais Âme Augmentée, quoi, s'il te plaît.
Oui, mais non, mais je
évidemment,
sais.
C'est meilleur Âme Augmentée, on sait, mais
oui. Voilà,
on aura le temps d'en reparler.
Et voilà, mais c'est, je veux dire, c'est pas le même sujet. Je veux dire, en fait, moi, ce que j'attends d'un récit science-fiction et d'un comics tel que peut le proposer un comics indépendant, c'est une capacité à bousculer mes attentes, bousculer ma vision. Et là, Âme Augmentée avait réussi là-dessus. Apparition dans le ciel de Berlin-Est m'avait bien surpris, même si c'était très rapide. Et pareil, encore une fois, c'était très simple, mais ça m'avait surpris. Et ça, c'était quand même assez fort. Ici, il n'y avait pas de surprise dès le départ. Et le récit ne se cache pas à vouloir jouer d'une certaine révélation, d'un complot de choses qui seraient négatifs. C'est rapidement révélé,
ouais, c'est ça,
et
aussi.
Je me dis ok, bon bah très bien, tu me prends pas pour un con, donc j'apprécie. Et finalement, le fait qu'à par la suite, bah y a pas de surprise que ça suive effectivement ces lignes qui sont déjà présentes depuis longtemps. J'ai juste apprécié découvrir la représentation de cet univers qui pour le coup a quelque chose d'un peu original qui m'a quand même plu, et j'ai refermé l'album en me disant c'était une bonne histoire, mais ça a rien changé. Voilà, et c'est pas quelque chose dont j'attends plus, tu vois. Là où vous avez dit que vous auriez préféré que ça soit plus long, moi de mon côté, je pense que si ça avait été plus long, ça aurait juste traîné en longueur et je me serais ennuyé. J'aurais pas forcément apprécié que ça soit plus long, mais de toute façon, avec ce qui est proposé là, avec les idées qui sont présentées là, qui sont des portes ouvertes de la SF, j'en attends pas plus, et c'est pas forcément quelque chose que je conserverai dans ma collection de comics, mais vraiment, pour une bonne histoire de SF, ça marche. Mais voilà, c'est pas quelque chose pour lequel j'aurais un sacré coup de cœur, ou un titre, ah, tu veux te lancer dans le comics indé, vas-y, lis ça, c'est trop bien. Non, je te conseillerais d'autres choses. Mais c'est une bonne publication quand même.
Van Jensen, j'ai l'impression que c'est un genre de Marc Russell, mais l'humour en moins. La critique que tu viens de faire, c'est un peu ce que j'ai avec Marc Russell. J'adore Marc Russell, mais d'un côté, je trouve que c'est toujours en surface.
Ouais, pareil.
C'est que ça se veut critique politique, critique du monde tel qu'il est, mais c'est toujours... alors, si vous n'avez pas lu Binary Island, alors je ne sais même pas si on l'a présenté, mais non, je pense pas.
Non, on ne l'avait pas présenté.
Binary Island a le même genre de problème, c'est-à-dire que c'est une critique des riches, en disant que grosso modo, les riches, quand ça va aller mal, ils vont aller se cacher sur une île. Ça me rappelle un peu quand même notre sujet. Et en fait, ça va présenter les riches avec la pointe d'humour, donc là pour le coup c'est Marc Russell, mais ça va être très simplé, regardez les riches, ce qu'ils font, ils sont méchants et tout. Ouais, c'est bien, mais en fait, je m'attendais à un développement un peu plus tiré que ça, quoi. Donc pour moi, c'est le niveau 1 de ce qu'on pourrait faire si on voulait critiquer justement les méga riches, ceux qui sont qui ont hérité plutôt que qui n'ont gagné vraiment leur argent. Ça commence à tirer sur de la politique ici. grosso modo, voilà. Effectivement, voilà, c'est le gros point noir. Van Jensen, ça reste quand même assez simplé. Et pour moi, ça aurait été bien de. En fait. Étirer le récit aurait pu être bien, mais notamment parce que moi c'était plus le côté où aussi il y avait des choses que je trouvais un peu plus incrédules, dont j'en ai pas encore parlé, mais c'est notamment par exemple sur le Effie qui limite dans les deux trois premières pages, elle sait déjà qu'il y a quelque chose qui va mal parce qu'elle a lu un bouquin et que ça lui a ouvert la pensée. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Ça marche pas comme ça.
C'est ce que j'allais dire, c'est que le personnage, je le trouve en fait étrangement nié, c'est-à-dire que, alors c'est un peu trop fort, mais c'est que comme tu dis déjà, ce retournement de j'ai lu un livre et ça y est, j'ai compris quelque chose, c'est un peu une justification beaucoup trop facile, parce que quelqu'un qui justement pourrait avoir une culture littéraire aussi élevée, dans ce cas-là, pourrait déjà voir qu'il y a un problème depuis bien longtemps. Et je me dis, mais c'est quoi ce héros quand vous dites que vous êtes attaché au personnage? Moi, le personnage, pour moi, c'était un peu un personnage un peu vide. Je me fichais pas mal de ce qui pouvait lui arriver. Je cherchais surtout à savoir comment.
Ah, j'ai pas dit que je m'attachais. Hein.
Non, mais j'avais entendu ça. Je crois que c'est peut-être Nightwing qui disait que justement tu trouvais Effie attachante. Mais de mon côté, c'était un peu. C'était un peu le personnage que je trouvais trop simple et pas détestable. Ouais.
Parce qu'elle est. Ouais, elle fait très. C'est une ado, quoi. C'est juste. C'est une gamine. Et tu vois qu'elle a une. Aucune expérience de rien, quoi. Elle a son réveil le matin qui lui dit quoi faire. Ils sont tous super disciplinés. Ils ont tous le même chant, pareil. C'est des choses qu'on revoit très souvent dans ce genre de récit, mais du coup ça en fait un personnage qui a à peine une personnalité en fait parmi un corps de comment on les appelle déjà en français ça se traduirait par colon si on devait traduire littéralement. Mais les settlers, c'est des pions en fait. Ils servent à faire leur boulot et fin de l'histoire. Donc elle de son côté, on sent un peu cette, on insiste sur sa personnalité parce que c'est le personnage central. Donc du coup, on s'y attache un minimum. Et après, il y a le fait qu'elle veut transmettre. Elle sert un petit peu de comment ? Elle va servir un petit peu de figure de proue pour les générations d'après, parce que justement c'est elle qui va plus ou moins essayer de réfléchir à ce qui arrive à une fois que t'as passé l'âge de 18 ans, qui va emporter avec elle une petite qui elle vient de commencer à prendre le rôle qu'elle avait elle avant, Donc, je trouve que c'est à partir de ça qu'on développe vraiment de l'attachement envers elle. C'est plus avec ce qui va se passer autour d'elle, finalement. Mmh.
Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est des personnages secondaires, comme lorsque elle assiste à un certain match de boxe et que elle réalise un peu la violence de la société dans laquelle elle vit, et que ces personnages secondaires qui pourraient très bien réagir. Et justement, cette interaction-là, je la trouve géniale parce que elle t'explique que toutes les autres personnes qui pourraient lui dire depuis bien longtemps ce qui se passe et que c'est difficile à accepter, etc. Bah en fait, finalement, ils vont la laisser accepter par elle-même, enfin en pensant qu'elle acceptera par elle-même les choses, et que eux en fait l'ont déjà accepté, que ça ne les choque même plus ces situations assez violentes. Donc ça, j'ai bien aimé.
Pour moi, c'était justement ces personnages secondaires, notamment aussi le chef de la sécurité, ce genre de personnages là, qui accepte sans accepter. L'autre truc qui me gonflait un peu aussi, c'est que on voyait justement avec la personne qui est soi-disant le sacrifié, parce qu'il y a une personne, ce qu'on n'a pas parlé dans le récit, c'est qu'il y a une personne qui s'est sacrifiée pour que le vaisseau décolle, qui est soi-disant celui qui a tiré, qui a appuyé sur le gros bouton rouge pour que le vaisseau décolle. Et en fait, sa pensée ne sera pratiquement pas développée, alors qu'on comprend qu'il est quand même primordial. Et ça aussi, ça m'a un peu attristé de voir qu'au final, c'était juste quelques mots, on va dire, sur l'intégralité du tome. Et qu'au final, ça va même pas être plus développé. En fait, le truc, c'est que on voit que, effectivement, quand tu parlais des personnages secondaires, c'est qu'il y a des personnages secondaires qui voient que ça ne leur plaît pas forcément la situation dans laquelle ils sont, mais qui font avec, parce que de toute façon, ils ont pas le choix. Mais du coup, de la laisser accepter, pour moi, j'aurais été plus à lui donner des pistes, en fait, que je trouve un peu dommage. En fait, le problème, c'est que le fait qu'elle recolle tous les morceaux et qu'elle comprenne quelque chose, pour moi, c'était le seul truc que je trouvais quand même complètement un peu irréaliste, c'est qu'elle se balade pour aller voir le travail de l'un et l'autre et recoller tous les morceaux ensemble. Je comprends pas trop ce côté-là. Pour moi, ça aurait pas dû, enfin, ce truc-là aurait dû venir, à mon avis, d'aide extérieure, parce que théoriquement, en fait, elle devrait être comme l'ensemble de ses autres collègues, c'est-à-dire que ils se sont des candides, en fait. C'est-à-dire que quand t'as été élevé toute ta vie à ne faire qu'une seule tâche et qu'on te donne aucune éducation que de te dire « récure la merde là, sinon je te tue », voilà. Enfin, tu peux pas développer quoi que ce soit.
À aucun moment.
Et en fait,
à aucun moment, t'as envie de remettre en question ce qui se passe autour de toi, en fin de compte, parce que même l'idée de réfléchir, on te la donne même
pas. Mais en plus, après, t'en as certains qui ont une certaine acceptation, mais en fait, c'est passé un peu trop à la poubelle. Donc, notamment, par exemple, celui qui gère l'abattoir, où il comprend, lui aussi, a un très gros, oui. Mais en fait, lui, il va jamais avoir cette réflexion-là, donc c'est ça qu'on comprend pas. Et en fait, je devrais faire une liaison avec un titre que j'ai eu il y a pas longtemps, qui a été, alors c'est un bouquin qui a été édité en BD, illustré par Craig Russell, que j'adore, soi-disant passant, ça s'appelle Le Passeur. Ou grosso modo, c'est une société où il n'y a plus de couleurs, tout le monde a une tâche prédéfinie je crois, 16 ans, quelque chose comme ça. Et le personnage principal aura pour tâche de sauvegarder la mémoire de l'humanité, et le seul à la connaître, on s'en fout. Mais grosso modo, dedans, il y a des gens qui ont pour boulot de faire, on va dire, du soleil vert. C'est faux, il n'y a pas de soleil vert, mais vous voyez très bien de quoi je parle, c'est de se débarrasser des vieux. Et en fait, ces gens-là, eux savent que ce qu'ils font, c'est leur or, mais en fait, il y a une réflexion derrière pour les faire accepter. Et en fait, là, j'ai pas l'impression qu'on ait pu tenter de le faire, alors qu'en fait, sur Le Passeur, on est vraiment sur le même nombre de pages en termes de BD, hein. Enfin, peut-être un peu plus, mais pas grand-chose. Il vaut le détour, il est très bien, si jamais. D'ailleurs, j'avais hésité à le présenter en émission, mais bon. Tant pis. donc voilà.
Ouais, on peut pas tout faire. Mais ouais, du coup, bah, je pense que c'est... Ça va être quand même une bonne recommandation comics. Je le réserverais plutôt pour les fans de SF qui maîtrisent déjà, ou alors les curieux qui seraient intrigués par le style.
Non, enfin, peut-être pas ceux qui maîtrisent, mais pour ceux qui ont, alors, soit être fan du découpage Jess Landgaard, parce que du coup vous aurez peut-être du mal à trouver Edra, donc ça vaut toujours le coup. Par contre, pour les très grands fans de SF, vous allez vite tomber, vite trouver la fin de l'histoire. Il n'empêche que pour moi, ça reste une histoire qui reste quand même un petit peu sympa à lire. Elle vaut le coup. Mais effectivement, si vous êtes exigeant en termes de SF, je vous le déconseille. Vous allez vous faire la gueule. Ne faites pas ça. Non, mais voilà, c'est ça. Oui, c'est classique. Voilà, c'est un classique.
Non, mais bien sûr, avec cet avertissement du récit déjà connu, je pense que ça pouvait être aussi recommandé. Je veux dire, un fan de SF qui n'a pas lu d'autres dystopies secondaires qui pourraient ressembler au grand modèle, je pense que ce fan de SF n'a pas forcément poussé super loin, quoi. Donc, dans la SF, comme dans tous les genres, tu retrouves souvent les mêmes trames. Moi, là, personnellement, ça m'a pas emballé, mais je sais que pour certains, ça pourrait être un moindre mal pour plonger dans un nouvel univers de SF, quoi. Mais oui, donc, du coup, une bonne petite recommandation quand même. Donc, pour les crédits, Arca, écrit par Van Jensen et dessiné par Jesse Lonergan. 22€, c'est sorti le 7 mars 2024 pour un total de 192 pages. C'est je trouve ça très correct pour les formats de 404 comics. Ah, franchement, bon rapport qualité-prix.
Ouais, ils ont toujours des très bons formats. Pour le coup, on peut pas leur en vouloir. D'ailleurs, c'est... Il faut savoir que l'éditeur a vraiment une recherche de chercher vraiment des petites pépites et autres. Il y a juste un truc qui fait rire parce que du coup j'avais alors j'espère qu'il va nous écouter. S'il nous écoute, hein, c'était juste, ça me fait rire, c'est que du coup j'ai vu qu'avec un libraire qui en fait ils éditent aussi plein d'autres choses que on ne fait pas gaffe, mais ils éditent aussi notamment des titres sur du Pokémon, sur des espèces de data book pour des trucs de manga. Je savais pas du tout.
Justement, moi, c'est quand en fait ils ont annoncé un label comics, etc., je misais absolument pas sur 404 à cause de ça, parce que j'avais vu, du coup j'avais cherché un petit peu voir ce qu'ils avaient fait d'autre, et je me suis dit ok, bon bah en fait je me suis dit 404 c'est déjà oublié, et vraiment très surpris de toute façon depuis leur premier titre et leur première sélection, en me disant mais en vrai il y a quelque chose qui est fait et un soin qui est apporté, et c'est vraiment très étrange par rapport à ce qu'ils ont pu faire auparavant.
Ah, oui.
Et de toute façon,
parce que ça a l'air vraiment d'être alors je suis désolé, mais un peu du garbage d'autres licences, hein. C'est vraiment le oui. Ça vous dit d'avoir un quiz, oui, My Hero Academia, ou un calendrier de l'avant Spy Family, tu vois.
C'est pour ça que je misais vraiment pas sur 404 comics au départ, et c'est très surprenant ce qui arrive à fleurir de tout ça, tu vois. Et donc voilà, petite recommandation Arca, du coup c'est la fin de ce podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien, pour vous parler cette fois-ci d'un canard qui n'a pas forcément de pantalon, Howard le canard de chez Marvel, et on parlera notamment de Steve Gerber, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce bonhomme-là. Donc on vous dit à la semaine prochaine, salut tout le monde.
À la semaine prochaine.
À très vite.